11h midi, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1. En tant que grand sportif, il adore donner des conseils pour nous aider à nous maintenir en forme. Mais quand il a vu dans quel état on sortait tous du confinement, il s'est dit que le seul conseil qu'il allait nous donner, c'est de nous accepter tels que nous sommes. Le coach démissionnaire, Mickaël Quiroga.
Ouais, j'ai rien pu faire pour vous. Bonjour la famille, bonjour tout le monde.
Sur Instagram, on l'a vu pendant tout le confinement peindre des cailloux. On s'est fait un peu de soucis pour elle, car en temps normal, elle n'aime pas ce qui est lourd, mais plutôt tout ce qui est léger. Notre Léonard de Vinci de l'humour, Antonia de Rindinger.
Ah, j'ai eu peur d'être Leonarda. Merci, bonjour.
C'est un scandale, il ne figure pas dans le classement des personnalités les plus influentes selon le magazine Forbes, alors qu'il a quand même réussi à influencer ses amis de le garder chez eux pendant tout le confinement.
Oui, c'est vrai.
Le persuasif mais discret Laurent Barra.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et celle qui est contente que les sièges des salles de spectacle soient éloignés, elle en avait marre que dans son public ça se drague sous ses yeux. Celle qui sera pourtant bientôt très heureuse en amour, c'est sûr, la preuve, quatre voyants le lui ont prédit. Le cœur à prendre, le plus drôle, le plus touchant et le plus sexy de la scène française, Anne Romanoff.
Oui, c'est imminent,
oui.
Il paraît.
Oui, ça arrive, là. Là, ça arrive.
Bien sûr.
Août, septembre.
On parlait de la stabilisation.
C'était moi.
Août, septembre. Stabilisation absolue, août, septembre.
Ça
va, c'est bientôt.
Ça va pas mieux.
Au sommaire.
Oh mon Dieu, un mariage.
Mais non, mais calmez-vous. Au sommaire de cette émission, nous vous ferons gagner un séjour pour 4 personnes d'une valeur de 2000 euros en jouant à notre jeu Devinez qui je suis. Nous recevrons l'écrivain Joël Dicker pour son livre L'énigme de la chambre 622 qui vient de sortir aux éditions De Fallois. Puis notre invitée jusqu'à midi sera la belle Alexandra Sublet qu'on retrouve du lundi au vendredi dans C'est quand l'loup à 20h55 sur TF1.
11h midi. Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Alors vous savez que les habitants des départements 55 à 95 et des départements d'outre-mer ont jusqu'à ce soir minuit pour faire leur déclaration de revenus en ligne sur le site impots.gouv.fr. Est-ce que vous avez fait votre déclaration? Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que vous maîtrisez tout ce qui est démarches administratives en général? Anthony.
Oh là là. Alors moi, je vais vous dire, franchement, c'est le truc le plus angoissant de mon année. Je suis totalement terrassée par les chiffres. Je suis toujours persuadée de mal faire. Alors du coup, pour la première fois, j'ai anticipé et j'ai tout confié à l'homme de ma vie. Comme ça,
votre mari ?
Non, j'ai pris un comptable. Grâce à lui, l'État me rembourse un trop perçu. Hein. Ah bah, du coup, depuis, je vous avoue qu'entre mon mari et mon comptable, mon cœur balance, franchement. Hein.
Laurent Barra ?
Moi, j'ai intérêt à faire très attention, je vous le dis. Hein. Célibataire, sans enfant, je paye énormément d'impôts. C'est pour ça que je m'applique beaucoup à chaque déclaration.
Vous faites attention aux chiffres, aux montants que vous faites
dans... Non, je fais attention à chaque fois que je suis avec une fille, de lui dire que si on se paxe, on paiera moins d'impôts. Voilà.
Les arguments.
Europe 1. Ça fait du bien de le dire.
Antonia de Rindinger, vous êtes entrée dans le monde d'après ?
Oui, Anne. Depuis le début du confinement, on nous parle, vous savez, de ce monde d'après, ce monde formidable, qui serait une sorte de paradis verdoyant, peuplé de Teletubbies, sans bagnole, sans plastique. On respirerait le même air qu'au sommet des Alpes, on pourrait cultiver des patates bio dans nos toilettes sèches, nager dans la Seine, on boirait l'eau des caniveaux, tellement elle serait pure et propre. Dans ce monde d'après, les oiseaux, les renards, les sangliers, les cougars, pas vous, Anne, hein, les félins et les punaises de lit vivraient en harmonie avec les humains, un peu comme dans Pocahontas ou le Roi Lion, vous voyez. Voilà, le monde d'après, ce serait une chaîne d'amour, un monde éco-responsable, sans pollution ni surconsommation, et qui s'appelle Orio Kézac. Et moi, ce monde d'après, j'en rêvais, vous voyez, cette attente d'une humanité heureuse, ça m'aidait à garder l'espoir, à tenir le coup, à ne pas sombrer dans l'angoisse et à patienter avant de pouvoir enfin, par une belle matinée ensoleillée, sortir et me rendre à l'Apple Store pour changer la batterie de mon téléphone et la vitre de ma tablette. 3 mois dans une misère technologique. Donc me voilà hier devant le temple de la pomme, une demi-heure avant sa réouverture officielle. J'ai vécu une expérience au-delà du réel. On était une cinquantaine, encadrés par une troupe de sympathiques vigiles, un subtil mélange entre des potes de Benalla, la mafia calabraise et des agents du Mossad. Bonne ambiance. On était dehors, parqué devant le magasin sur des lignes espacées de 2 mètres avec masque obligatoire, dehors. Et régulièrement, y passait un client au taser en mémoire de Steve Jobs pour garantir la discipline. 1984. Et là, je me suis dit, c'est ça le monde d'après? Des gens qui font la queue pour des appareils hors de prix à l'obsolescence programmée? Non, Anne, j'ai senti monter en moi un appel. Je me suis dit... Le monde d'après, après, c'était à moi de le construire. Bon, après avoir changé la batterie et la vitre. Hein. Alors j'ai enfourché mon vélo, car figurez-vous que le monde d'après, il a commencé. Et je ne voudrais pas vous faire peur, mais il ressemble furieusement au monde d'avant. Avec des masques et des gants par terre en plus, à côté des vieux sacs de McDo éventrés. Le monde d'après, il est là, et je crois qu'il est grand temps de nous retrousser les manches. De faire en sorte que nos enfants mangent mieux, local, sain, que nous puissions nous déplacer à vélo ou dans des transports collectifs à moindre coût, que nos déchets soient valorisés, notre électricité propre, nos bâtiments isolés, nos aliments emballés dans autre chose que du plastique et notre consommation raisonnée et raisonnable. Voltaire clôt le célèbre conte philosophique Candide par « Il faut cultiver notre jardin ». Eh bien Anne, vous me pardonnerez cette conclusion un peu lyrique, mais ce n'est pas demain qu'il faudra cultiver notre jardin et changer nos habitudes, c'est aujourd'hui, parce que demain commence aujourd'hui.
Merci Antonia de Rindinger, notre nouvelle militante écolo. C'est très bien de dire ça.
Et merci beaucoup
Anne. Et moi je vais devoir aller chez Apple et si vous me donnez du courage. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, Laurent Barra, Antonia de Rindinger et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour d'une valeur de 2000 euros en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Une heure de détente avec Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Antonia de Rindinger, Laurent Barra, Mickaël Quiroga. D'après un sondage, 87% des Français qui comptent partir en vacances cet été voyageront en France, contre environ 60% les années précédentes. Est-ce que vous en faites partie ? Est-ce qu'il y a des coins de France que vous aimeriez visiter ou à l'inverse, vous avez choisi de ne pas bouger de chez vous ?
Bah alors moi, j'ai jamais vraiment bien compris pourquoi on s'entêtait à partir à l'étranger alors qu'il y a des tas de petits coins absolument ravissants en France.
Oui, c'est vrai, la Creuse, le Poitou, le Puy-de-Dôme, c'est très joli.
Oui, alors moi, je pensais plutôt à la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Tahiti.
Mais je ne sais pas si on a le droit d'y aller cet été. Laurent Barra ?
Si, je crois, ouais.
Alors moi, rappelez-vous, enfin, je ne vous demande pas de suivre toute ma vie amoureuse, mais j'ai une copine plus.
C'est quoi plus.
Ça veut dire que, rappelez-vous de cette fille dont je vous avais parlé qui était infirmière il n'y a pas si longtemps que ça, et elle m'a demandé de passer 2 semaines chez elle en août, mais j'hésite.
Oh, bah pourquoi vous n'êtes pas spécialement attiré par elle ?
Si, mais elle vit à Châteauroux, et Châteauroux en août, j'hésite. Mais
là, c'est des préjugés, il y a des très beaux coins.
Exactement.
Mais la campagne de Châteauroux est très jolie.
Avec cette fille, je suis un peu fragile parce que je pense que je pourrais avoir un début de sentiment avec elle. Et je l'embrasse, d'ailleurs.
Ah bah elle va être contente, un début de sentiment.
Ouais, c'est sympa, ça donne envie.
Bah oui, bah, on s'est pas vu beaucoup.
C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Mickaël ?
Le devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Roumanoff.
Devinez qui je suis.
Le principe est simple, 2 auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités qui sont nées au mois de juin. Cette semaine, gagner un séjour d'une semaine pour 4 personnes, une valeur de 2000 euros à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis dans plus de 50 destinations en France avec Bellambra, numéro 1 des clubs de vacances en France. Partez sereinement dans les plus beaux endroits de France. Les équipes Bellambra Club sont prêtes à vous accueillir dans les meilleures conditions. Un personnel qualifié et professionnel, des logements chaleureux, une cuisine savoureuse et variée, des enfants combler des animations, du sport, des activités pour tous. Mmh. Bellambra Club, créateur d'émotions. Plus d'infos sur bellambra.fr. On joue d'abord avec Elsa. Bonjour Elsa.
Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
Bonjour Elsa.
Elsa, vous avez 38 ans, vous travaillez au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, vous travaillez à la boutique des souvenirs et vous habitez à Saint-Ouen dans l'Ariège.
Oui.
Et vous gérez un gîte rural avec vos parents à mi-temps.
Exactement.
Et vous aimez faire de la randonnée à la montagne ?
Oui, j'aime faire de la rando, dormir à la belle étoile, me mettre sur le transat et regarder les vaches, les moutons et les paysages.
Vous aimez bien la nature ?
Beaucoup.
Alors vous dites que vous avez un fils de 9 ans et vous dites que c'est un ange parce qu'il vous prépare le café ?
Non, pas que. C'est pas un ange parce qu'il me prépare que le café. Non, c'est un ange parce que j'ai beaucoup de copines qui voulaient faire des infanticides pendant le confinement. Et moi, c'est pas du tout le cas. Il est vraiment, vraiment... C'est un calme, bienveillant, il est chouette, il est pas chiant.
Ça cache quelque chose.
Comment il s'appelle ?
Louis.
Louis, et vous, voilà, et ça se passe très bien avec bien. Louis. Et pendant le confinement, ça a été l'école, tout ça, à la maison, ça n'a pas été trop dur ?
Non, pas du tout.
Et vous adorez faire la fête et vous dites 3 verres et très lourde, ça veut dire quoi ça ?
Ça veut dire que dès que j'ai bu 3 verres, je suis la copine qui est super chiante. Je t'aime trop, t'es ma meilleure amie.
Ça, c'est bien, ça. Et dès qu'il y en a un ou une dans une soirée comme ça, il est pour moi en général.
Vous avez l'alcool, ça vous rend... Vous aimez tout le monde dès que vous buvez.
Moi, il vaut mieux ça que la chieuse qui fait que chialer. Pourquoi il m'a quittée ?
J'ai pas mal dit, vous parlez autrement d'Anne Roumanoff, s'il vous plaît ?
Et alors, vous êtes célibataire, Elsa ?
Oui. Ah. Après, si je fais une rencontre, elle est la bienvenue.
Ah oui, bien sûr. Bah, la boutique de souvenirs, vous voyez passer du monde au musée, non ? C'est pas propice ?
Mais oui, mais je suis pas une histoire de passage, moi.
Ah,
ça c'est bien
oui,
dit.
C'est ça,
ça c'est bien dit.
Bon, en attendant, on va essayer de vous faire partir en vacances.
Oui.
Et vous écoutez l'émission tous les jours ?
Tous les jours, du matin au soir, on est branché avec vous, Anne. J'aime beaucoup, beaucoup qui vous êtes, ce que vous faites. J'aime beaucoup le personnage que vous êtes, vraiment.
Oh, moi, wow. C'est gentil, ça fait plaisir. Elsa, vous jouez avec qui, du coup ?
Alors, avec Antonia de Redinger.
Bien.
Oh, mais merci, je suis heureuse, Elsa.
Elle est très touchée.
Liste je vais vous faire gagner.
Liste 1 ou liste 2 ?
Liste 1.
Liste 1. Antonia, vous êtes prête ?
Je suis prête. On y va,
donc, ce sont des personnalités qui sont nées au mois de juin. Attention, top chrono.
Alors Elsa, c'est une tenniswoman noire, états-unienne. Elle a une jumelle qui s'appelle Serena.
Serena Williams ?
C'est sa sœur.
La sœur jumelle de Serena Williams ?
Oui, mais c'est pas grave. Allez, on passe à la suite. Alors, c'est un des Beatles. Sa fille s'appelle Stella et elle est styliste. Des Beatles.
Paul McCartney.
Oui, alors, c'est un acteur français qui a joué Brice Denis, The Artist. Brice Denis.
Jean Dujardin.
Une actrice américaine qui a joué dans Moulin Rouge, dans Eyes Wide Shut, avec Tom Cruise. Très belle. Oh, je suis déçue, Elsa.
Eh ben, Nicole Kidman.
Bon, oui.
Nicole
Kidman.
Ah, ouais, mais ça...
oui.
Trois bonnes réponses, Elsa. Ouais. On va voir comment se débrouille Florian. Bonjour, Florian.
Bonjour, Anne. Bonjour, toute l'équipe.
Salut, Florian.
Florian, vous avez 31 ans. Vous gérez deux centres laser anti-tabac à Lyon et Avignon. Vous habitez à Sorgues, dans le Vaucluse. Et vous êtes en couple depuis 5 ans avec un homme et ça se passe très bien.
Ça se passe bien, oui.
Et vous faites de la musculation 3 fois par semaine.
Oui.
Et votre compagnon, lui, il ne fait pas de musculation.
Non, il n'en fait pas. J'ai essayé de le tenter pour le confinement, de lui mettre l'appareil à côté du lit, mais ça n'a pas marché.
Il n'a pas le goût de la musculation. Quoi.
Non, de temps en temps, il vient me voir et me dit « qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je fais ?» Mais non.
Vous avez déjà joué avec nous, il me semble, Florian, ça me dit quelque chose.
Oui, ça fait quelques mois, oui.
Et vous aviez perdu ?
Oui, tout à fait.
Et vous aviez joué avec qui ?
Je crois que c'était avec Bena, je me souviens plus.
Là, j'espère que vous allez mieux vous débrouiller.
Oui.
Et alors, vous-même, vous gérez des centres laser anti-tabac. Est-ce que vous-même, vous fumez ?
Non.
Ah oui,
Ça serait mauvaise image, je pense.
Ah, c'est ça. Vous pourriez fumer en cachette, bien sûr.
Mais non.
Vous jouez avec qui, Florian ?
Eh bien, Michael.
Eh bien, allez.
Et alors, si vous dépassez 3 bonnes réponses, vous partez en week-end. Attention.
Allez, c'est parti.
Top chrono.
Alors, c'est le fondateur du Comedy Club qui porte son nom.
Jamel ?
Ouais. C'est la fille. Ouais, la fille de Gérard, la sœur de Guillaume. C'est pas grave. C'est le maire de Lyon.
Depardieu ? C'était Depardieu.
Voilà, c'était ça, mais il me faut son prénom.
Ok.
Ah, la fille. Bon, c'est pas grave. Le maire de Lyon, très vieux, il a été maire de Lyon pendant longtemps.
J'en ai pas la moindre idée.
C'est pas grave. Une chanteuse qui chante Le Point Levé.
Amel Bent.
Voilà, une actrice chanteuse La Journée de la Jupe, elle chantait Pull Marie. Voilà, un boxeur connu pour avoir mordu l'oreille de Evander Holyfield.
Égalité, égalité tous les deux. Elsa, Florian, je vous départage et celui qui trouve, eh ben, il partira en vacances bel en bras. Vous êtes prêts à jouer tous les deux ?
Allez, oui.
Vous êtes concentrés ?
Oui.
C'est une actrice belle, blonde et drôle qui était un duo avec Pierre Palmade. Elle a fait beaucoup de cinéma.
Michel Larocque.
Ben voilà.
Bravo.
Grâce à Michel Larocque, vous partez en séjour bel en bras. Un petit cri de joie, Florian.
Oula, ah ouais.
Vous avez gagné, Florian, un séjour pour 4 personnes en demi-pension d'une valeur de 2000 euros, une semaine à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis dans plus de 50 destinations en France avec Bellambra, numéro 1 des clubs de vacances en France. Plus d'infos sur bellambra.fr.
D'accord, c'est génial. Merci à vous. Désolé pour Elsa. Et merci à vous.
Bravo.
Elsa.
Oui.
Bon, alors déjà, vous avez failli gagner. Donc, vous rejouez avec nous d'ici un mois. Donc, tout n'est pas perdu.
Pas de souci.
Et ensuite, à l'approche de la fête des pères, Kelton vous offre une montre femme et une montre homme, deux montres. On se souvient du slogan et du nom qui ont marqué l'horlogerie française. Vous vous changez de Kelton. Kelton, l'époque de l'insouciance et de la liberté, revient avec une nouvelle collection vintage à souhait et des prix très doux. Les montres Kelton sont assemblées en France et disponibles sur kelton.fr.
Merci.
Bon, bah, je sens que vous êtes un peu
déçue,
Elsa.
Oui,
c'est
non,
normal.
Je ne suis pas déçue parce que je tiens des gîtes, donc j'ai envie de vous inviter moi-même en vacances. Si vous voulez tous venir, même Florian, vous pouvez venir.
C'est vrai, vous nous invitez dans votre gîte.
Ça, c'est très gentil.
Oui, oui.
Volontiers. Il est où ce gîte ?
Alors, il est à Aylit en haut, à Saint-Tin, en Ariège. Ah,
d'accord, bah, pourquoi pas, bien sûr.
N'oubliez pas qu'au bout de 3 verres, elle aime tout le monde, hein, quand même. Faites gaffe.
Mais c'est très gentil, écoutez, pourquoi pas, hein ? Et Florian, vous avez entendu qu'elle vous invite, vous qui l'avez battue dans un...
C'est super gentil, j'accepte l'invitation avec grand plaisir.
Bon, et vous lui ferez du laser anti-tabac gratuitement, du coup.
C'est bon. Mais je ne fume pas.
Ah bah vous ne fumez pas, oui, bon alors vous ne lui ferez rien.
Vous avez le temps de vous y mettre d'ici là.
On vous embrasse tous les deux, continuez à nous écouter.
Merci.
Salut.
Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Laurent Barra, Mickaël Quiroga, Antonia de Redinger, notre premier invité, l'écrivain Joël Dicker pour son livre L'énigme de la chambre 622 qui vient de sortir aux éditions de Fallois.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Antonia de Redinger, Laurent Barra, Mickaël Quiroga. Et notre premier invité par téléphone a tout juste 35 ans. Ses livres sont vendus à 10 millions d'exemplaires et sont déjà traduits dans 40 pays. Il vient de publier aux éditions de Fallois son cinquième roman, L'énigme de la chambre 622. Un roman diabolique entre jeux de pouvoir, coups bas, trahison, jalousie, où il les entraîne dans sa ville natale au cœur des Alpes suisses. Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au palace de Verbier. Mais l'enquête de police n'aboutit pas. Des années plus tard, un écrivain se rend dans ce même hôtel pour ses vacances et il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. Que s'est-il passé dans la chambre 622 du palace de Verbier? Lui seul connaît la réponse. Joël Dicker est notre invité sur Europe 1. Bonjour Joël Dicker.
Bonjour.
Bonjour.
Alors là, vous êtes en Suisse, chez vous?
Absolument, bonjour à tous.
Alors ça s'est bien passé le confinement en Suisse?
Bien passé, ça je sais pas, parce qu'on a eu un confinement qui, dans ce qui s'est passé, dans la souffrance pour les gens qui étaient enfermés dans leur appartement, qui n'ont pas pu aller au boulot, qui n'ont pas eu leur salaire, qui ont dû tirer le rideau de leur magasin, ça a été très difficile, mais on a eu un confinement un tout petit peu différent du confinement en France parce que c'était volontaire. Donc le résultat, si vous voulez, était le même, mais les Suisses ont eu l'impression de se confiner par leur volonté et pas par une obligation de l'État.
Bon, enfin, les Suisses,
et donc, ça a rendu cet exercice un peu plus démocratique.
Les Suisses, ils sont très disciplinés, oui. Joël Dicker. On sait très bien que, par exemple, en Suisse, on ne traverse pas au feu rouge. Même quand il n'y a pas de voiture, à chaque fois que je en Suisse, je traverse au feu rouge, on me fusille du regard.
Ah, mais vous bravez les interdits tout le temps.
Non, mais c'est vrai. Vous avez remarqué ça, qu'en Suisse, vraiment, même il n'y a pas de voiture, tout le monde
attend. C'est très bien rangé, la Suisse.
Oui.
Alors, le narrateur de votre livre est un écrivain qui part se réfugier dans les Alpes suisses, votre région natale, à la suite d'une déception amoureuse, mais aussi du décès de son éditeur, Bernard de Fallois, qui se trouve être votre éditeur historique. C'était important pour vous de lui rendre hommage, parce que vous dites que c'est le premier éditeur qui vous a fait confiance, en fait.
Oui, c'était très important parce que j'ai commencé ce roman après son décès en 2018 et j'avais très envie de raconter un peu qui il avait été, ce personnage assez incroyable qui a été une légende de l'édition en France. Moi, je l'ai connu vraiment à la fin de sa vie, je l'ai rencontré en 2011, il avait 85 ans et donc il était vraiment dans la troisième, quatrième partie de sa vie et ça a été des années assez extraordinaires parce qu'il avait envie de se marrer. Il avait fait sa carrière, il n'avait plus rien à prouver, il avait envie de rigoler, d'être dans une littérature dans laquelle il a le plaisir. Et c'est lui qui a absolument voulu faire paraître la vérité sur l'affaire Harry Kuber. Moi, je ne voulais pas du tout. Et le livre a eu un succès immense.
Pourquoi vous ne vouliez pas? Parce que vous avez eu du mal à vous faire publier. En plus, vous avez été refusé par je ne sais combien d'éditeurs pendant des années. Et pourquoi, à un moment, un éditeur veut publier votre livre et vous ne voulez pas?
Mais parce qu'en fait, on avait publié ensemble, quelques mois avant Harry Kuber, en janvier 2012, on avait publié, Bernard et moi, mon tout premier roman, Les derniers jours de nos pères, qui s'était vendu à 200 exemplaires, dont ma grand-mère a dû en acheter 195. c'était pas... c'est le sort de beaucoup de romans, mais je n'étais pas convaincu que j'avais vraiment une carrière très importante à faire dans ce monde-là, parce que tous mes romans avant avaient été tous refusés par les éditeurs. Enfin, ce roman-là paraît, et puis il marche vraiment pas très bien. Et puis Bernard me dit, un ou deux mois après ça, il apprend que j'ai terminé le manuscrit de mon nouveau roman. Il me dit, j'aimerais vraiment le lire. Alors je lui fais lire en me disant, il va pas aimer, c'est trop américain, c'est trop gros, c'est trop ci, c'est trop ça. Et il le lit en une nuit et il me dit, c'est génial, il faut le faire paraître immédiatement. Et là, je lui dis, non, mais on ne devrait pas le faire paraître tout de suite, on devrait attendre un an ou deux. Parce que vous voyez, on vient de faire paraître un livre.
Ma grand-mère n'a plus d'argent pour acheter.
Ma grand-mère n'a plus un sou, il faut qu'elle se refasse. Et donc moi j'étais, si vous voulez, c'est pas que je voulais pas le faire, c'est que je voulais attendre un an ou deux. Parce
le moment
que
je propice, que quoi. Vous aviez pas confiance en vous, cela dit.
Six mois. J'avais pas confiance en moi, j'avais pas du tout confiance en ce roman, en le potentiel de ce livre. Et il est vraiment le seul à l'avoir vu. Mais vous savez, un éditeur aussi, c'est pas seulement de sentir le potentiel d'un livre, c'est d'y croire et c'est de se battre pour ce livre. Et je pense pas que ce livre aurait eu forcément le même succès avec quelqu'un d'autre que lui, parce qu'il a vraiment été au combat presque. Hein.
Il a téléphoné
à tous les libraires de France.
Ah, il a téléphoné à tous les libraires de France en disant quoi ?
Il était incroyable. Mais oui, parce que ce livre, finalement, pendant 4 ou 5 mois, il me dit « Allez, Joël, on le fait. » Moi, je lui dis non. Finalement, il me tanne à un tel point que j'accepte. Et quand j'accepte, on est à la toute fin du mois de juin, pour un roman qui doit paraître au début du mois de septembre. Donc vous imaginez que toute la rentrée littéraire est déjà bouclée, les journalistes sont en vacances ou presque, les libraires ont déjà reçu leurs livres et tous les livres de la rentrée, enfin c'est mort, c'est complètement mort. Et je lui dis, mais Bernard, comment vous allez faire, parce qu'on est complètement en retard sur tous les autres, comment vous allez faire pour que les gens lisent ce livre ? Et il me dit, je vais faire le buzz.
il avait déjà 75 ans, c'est ça.
Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Et je lui dis, mais comment vous voulez faire un buzz ? Et il me dit, je vais téléphoner. Et il a téléphoné à des centaines de libraires et plusieurs fois à chaque fois.
Incroyable.
En leur disant, bonjour, c'est De Fallois. Alors les gens disaient, De Fallois, le grand éditeur. Il dit, oui, j'ai un livre. Écoutez, je me pose une question. Je fais paraître un livre au mois de septembre que je trouve très bon. Mais voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez.
Oh, le malin.
Et sa force à lui, c'est qu'il demandait toujours l'avis des gens. Il n'était jamais en train de dire c'est comme ça, c'est super.
Donc il a envoyé le livre à tout le monde pour qu'il le lise avant tout le monde, en fait, c'est ça ?
Il a envoyé le livre à tout le monde, mais il a surtout insisté auprès de tous les libraires pour qu'ils le lisent, et il les rappelait le lendemain pour être sûr qu'il l'avait bien commencé, puis il les rappelait deux jours après
en
leur disant « Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ?»
Incroyable.
Et en fait, ça a eu pour effet que les libraires ont lu ce livre. Et pour vous donner un exemple, dont je parlais un peu dans le livre, mais en même temps que mon roman paraissait le premier roman de J.K. Rowling qui n'était pas un Harry Potter, et ce roman-là, toute la com avait été faite autour du fait qu'on ne pouvait pas le lire. Les livres étaient arrivés la veille avec des agents qui le protégeaient, mis sous clé. Les libraires n'avaient pas eu le droit de le lire avant. Et quand les lecteurs sont arrivés pour acheter ce livre, le J.K. Rowling, dont tout le monde parlait, et qu'ils ont demandé au libraire est-ce qu'il est bien, tous les libraires ont dit « Écoutez, on ne sait pas parce qu'on n'avait pas le droit de le lire. Par contre, j'ai lu ce bouquin, c'est De Fallois qui l'a et c'est les libraires qui ont vraiment fait le succès de ce livre.
Génial. Et en plus, ça n'a pas été juste un coup d'essai, parce que parfois, on peut dire « Oh là là, j'ai juste un livre qui a marché ». Depuis tous vos livres, là, vous avez vendu 10 millions de livres. C'est
incroyable.
Astronomique quand même.
Oui, mais il a été un bon guide. Justement, il a été un bon guide parce qu'il n'a pas arrêté de me dire, après le succès de Harry Quebert, quand j'ai commencé à écrire un autre livre, on l'interroge un jour. Il y a des journalistes qui l'interrogent et moi, je suis là. Et ils lui disent « Est-ce que vous pensez que vous publierez le prochain livre de Joël ?» Et la question est posée de façon pas très sympathique et le sous-entendu est vous imaginez bien que Joël va probablement quitter votre toute petite maison de rien du tout que personne connaît pour aller chez un grand, un Gallimard, un Grasset, etc. Et Bernard de Fallois a cette réponse extraordinaire. Il leur dit « Si le livre n'est pas bon, je ne le publierai pas ». Et c'était exactement ça ce que Bernard faisait, c'est qu'il avait une exigence par rapport au travail et par rapport à ce qu'il fallait faire et ce qui devait être fait, qui n'était pas du tout lié au succès. Et il a réussi tout de suite à m'isoler de ce succès. Il faut dire que le fait que j'ai voyagé énormément et que dans chaque pays que je visitais, le succès était à faire. Oui. Je quittais la France, on en avait vendu une tonne, c'était super, etc. J'arrivais dans des pays à une heure de vol de là, où personne ne connaissait. Il fallait voir les journalistes, attendre, les supplier, espérer avoir une petite colonne quelque part. Donc tout était à recommencer. Et c'était aussi assez bon de se rendre compte que vous pouvez avoir un grand succès chez vous et qu'à une heure de route, personne ne sait qui vous êtes.
Laurent Barra, une question pour vous, Joël Dicker.
Joël Dicker, moi je vais revenir sur le côté artistique. Vous avez profité de cette période de confinement pour être créatif, vous avez écrit pendant ce confinement ?
Non, j'ai été pas créatif du tout.
Ah oui ?
D'abord parce que j'ai trouvé que c'était une période très anxiogène et que voilà, c'est pas un climat qui me donne envie de créer. J'ai besoin plutôt d'être serein, d'être bien.
D'accord.
Et puis l'autre chose, c'est que mon roman devait paraître était dans les cartons et prêt à être envoyé chez les libraires et tout s'est arrêté. Et en fait, c'est un moment très désagréable parce que moi j'ai passé 2 mois à ruminer ce roman et à me dire, mais est-ce que j'aurais dû ajouter ce personnage, enlever ce personnage, ajouter une virgule là, etc.
Ah, et oui, les
et
doutes, donc, oui.
C'est un procédé qui arrive souvent entre le moment où il est imprimé et le moment où les gens le lisent, mais en principe, ça dure 3 semaines.
Et là, oui, ça
donc, il y a 3 semaines, on est un peu tendu comme ça, on se dit, on repense à ce qu'on aurait pu faire. Là, ça a duré 12. Donc, j'ai passé 12 semaines à ruminer ce livre. Et donc, j'ai été.
Et là, le livre est sorti, L'énigme de la chambre 622, paru le 27 mai aux éditions De Fallois. 576 pages. Alors, on en a pour son argent, pour seulement 23 euros.
Et on est sûr qu'il n'y aura pas de coquilles parce qu'ils ont pris le temps.
Et on lui souhaite le même succès qu'à tous vos autres romans, Joël Dicker. En plus, à chaque fois, vous vous êtes adapté au cinéma ou à la télévision. Donc là, j'imagine que ça sera encore le cas.
Il y a de l'intérêt. Le roman vient de sortir, donc on attend qu'il soit un peu lu. Mais il y a de l'intérêt. Après, la difficulté, c'est qu'évidemment, entre le moment où il y a quelqu'un qui est intéressé et puis le moment où vous êtes en train de tourner, il peut se passer pas mal de temps et il peut y avoir pas mal de péripéties. Donc, j'attendrai de le voir pour le croire.
Et en attendant, on vous encourage tous à lire L'énigme de la chambre 622, le cinquième roman de Joël Dicker, aux éditions De Fallois. Merci d'avoir été avec nous, Joël Dicker. Portez-vous bien.
Merci beaucoup à vous tous.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Antonia de Rendinger, Mickaël Quiroga, Laurent Barra.
Tout de suite.
Et notre invité jusqu'à midi, la belle Alessandra Sublet, aux côtés de Nicolas Canteloup, chaque jour dans C'est Canteloup sur TF1.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Mickaël Quiroga, Laurent Barra, Antonia de Rendinger. Et nous recevons maintenant une animatrice de télé et de radio qui a su imposer son style naturel. Une lyonnaise au caractère bien trempé et au rire communicatif. Découverte par Christophe de Chavannes, elle a fait ses armes chez Canal+ et M6. Mais c'est sur France Télévisions, dans l'émission C'est à vous, que la France entière découvre sa spontanéité légendaire lors de dîners conviviaux où elle reçoit de nombreuses personnalités du monde culturel et politique. Désormais, elle se trouve chez TF1 et c'est dans l'émission C'est Canteloup qu'elle communique tous les soirs sa bonne humeur aux téléspectateurs en compagnie de l'imitateur Nicolas Canteloup, la girl next door du PAF est avec nous ce midi, Alessandra Sublet. Bonjour Alessandra Sublet.
Bonjour, ben voilà, vous avez fait un portrait parfait. Coucou.
Ça vous plaît?
Bonjour.
Oui, ça va Anne, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, vous connaissez bien cette maison, vous l'avez fréquentée, vous en gardez des bons souvenirs ou
Oui, j'en garde un excellent souvenir, notamment lors de la passation de pouvoir d'antenne entre Anne Romanoff et moi, n'est-ce pas? Car nous enregistrions juste l'une après l'autre et ça, c'est merveilleux.
Alors, les gens ne savent peut-être pas, mais vous vous appelez officiellement Alexandra avec un X, car à votre naissance, employé d'état civil a refusé d'écrire Alessandra avec deux S. Et alors, en fait, vous lui en voulez encore ou...
Non, mais je me dis que quand je vois certains prénoms qui sortent aujourd'hui, sincèrement, c'était vraiment pousser mémé dans les orties. Mais c'est pas grave, on évolue avec son temps, pas plus mal.
Mais moi aussi, j'ai le même problème, parce qu'à la base, je devais m'appeler Monica Bellucci, Romanoff. Et mes parents ont refusé, ils ont dû se rabattre sur Anne, en fait.
Ça vous va bien, Anne.
Alors, depuis 2018, Alessandra Sublet, vous remplacez Nico Saliagas à la présentation de C'est Canteloup sur TF1, du lundi au vendredi à 20h55. Est-ce qu'avoir une femme en face de lui, ça a obligé Nicolas Canteloup à faire un peu évoluer son style, ou alors, au contraire, il en rajoute?
Ben si, ça a obligé les auteurs à écrire différemment. Et c'est ce qui est bien d'ailleurs, parce que moi, je peux leur rentrer dedans un peu plus facilement que, par exemple, si c'était un homme ou en l'occurrence Nikos. Et moi, j'avais envie de ça. Donc en fait, on a travaillé là-dessus avec eux. Et Nicolas, il s'en donne à cœur joie aussi. Donc non, c'est parfait.
Alors chaque soir, en compagnie de Nicolas Canteloup, Alessandra Sublet, vous revisitez l'actualité du jour avec des tournements d'images, des parodies, des imitations, des interviews décalées. Et le format peut évoluer à tout moment. Il y a des interdits ou tout est permis? Et vous-même, vous avez des limites ou...
Bah, là, déjà, le format, il a évolué parce que pendant le confinement, on était chacun chez soi à la campagne. Et en fait, ils sont beaucoup servis de ce qu'on appelle le deepfake, c'est-à-dire, vous savez, le visage de gens connus sur le visage de Nicolas. Ouais. Et donc, en fait, ça a été un step supplémentaire dans le format. Et après, non, ils s'interdisent rien. Bah, la preuve, c'est que parfois, ils prennent des volets de bois vert de politique ou même d'anonymes qui disent « Oh là là, vous y allez trop fort ». Mais je pense qu'en fait, vraiment le principe de la pastille humoristique, c'est ça aussi, c'est de faire parler d'elle.
Alors là, on vous a vu, vous étiez toujours super bien habillée. Je suis sûre que sous la table, vous étiez en pyjama ou
Non, alors, c'est drôle ce que vous dites, c'est très drôle. J'ai plein de moments. J'étais en short parce qu'en fait, pendant le confinement, j'étais à la campagne chez moi, parce que j'habite à la campagne, et il faisait très chaud. Et donc, du coup, c'est très souvent que la cadreuse me disait « Mais en fait, heureusement qu'on ne montre pas le bas, parce que oui, effectivement, il n'y avait aucun effort sur le bas. »
Et c'est l'avantage d'être une femme comptable.
Vous jouez aussi une sorte de rôle, en fait, dans cette parodie de JT, celle d'une présentatrice qui a du répondant. Et pour les interactions avec Nicolas Cantu, vous écrivez vous-même, vous laissez libre cours à votre imagination. Comment ça se passe?
Alors, en fait, les auteurs, ils font une base. Nous, on répète jamais avec Nicolas pour garder de la spontanéité. Et donc, en fait, on fait ça avec le metteur en scène qui s'appelle Stéphane Joly, que j'embrasse et que j'adore. Et donc, en fait, non, on se laisse beaucoup de spontanéité. Et moi, parfois, j'en rajoute une ou deux pour le vanner. Donc, on est assez libre, hein, honnêtement. Les auteurs aussi, et tout ça sous la tutelle de Jean-Marc Dumontet, qui fait un travail exceptionnel. C'est à lui qu'on doit aussi, entre autres, le fait de pouvoir d'avoir pu rebosser pendant le confinement, parce qu'il s'est battu aussi auprès de tout le monde pour qu'on puisse être là et donner un peu de sourire aux gens.
Alors, vous avez présenté aussi, Alessandra Sublet, l'émission Star à nu. Est-ce que vous mettez facilement à nu, vous?
Bah là, disons que j'ai tout donné, parce que pour le Star à nu, et notamment pour lutter contre le cancer du sein, moi j'ai fait le show avec les filles, et donc on a fini à moitié à poil sur la scène du Lido, je voudrais quand même le préciser.
Oui. Avec,
évidemment, j'avais la plus jolie poitrine de... Parce que dans le public, les gens l'ont vraiment vu, et j'ai des potes qui sont hyper bienveillants qui m'ont dit « Je sais pas si t'aurais dû enlever le haut. » Bon, écoute ta gueule.
Pourquoi ils vous ont dit ça?
En fait, c'est un peu comme vous et vos chroniqueurs. On est très appuyés, on est très soutenus par les gens proches de vous qui vous aiment. Donc du coup, bah oui, parce que c'était vrai.
Mais je suis sûre qu'ils sont très bien, vos seins, Alexandre.
Oui, bah non, ils sont juste pas refaits avec deux enfants au passage, et c'est pas très grave.
Ah, ils tombent un peu.
Je sais de quoi vous parlez.
Voilà. Et je ne passerai pas sous le bistouri, je répète. Je ne passerai pas sous le bistouri.
Vous n'avez jamais rien fait en chirurgie esthétique, Alessandra Sublet?
Ah non, mais je pourrais pas. En fait, à côté de nous, il y a tellement de nanas qui le font que du coup, quand elles ont 50, vous leur dites bonjour, vous avez l'impression qu'elles en ont 20. Mais moi, non, il y a un problème. Il faut essayer de rester comme on est là.
C'est la beauté naturelle, c'est ce qu'il y a de plus beau. Enfin...
Bah, moi, j'adore.
Moi, je trouve ça génial que vous disiez ça.
Bah, oui.
Bah ouais, mais vous voyez, c'est comme les couvertures de magazines. Je me bats très souvent pour pas qu'on me photoshoppe, parce que je me dis un truc, je me dis non mais la fille qui achète le magazine et qui a mon âge, à quel moment est-ce qu'elle va se dire attends mais moi j'ai pas ça, enfin je sais pas, c'est foutre des complexes pour les autres gratuitement. Ouais. Donc non, j'en ai vraiment rien à faire.
Ah bah moi par contre, sur mes affiches, j'enlève un peu de ventre quand même. Hein.
Quoi?
Pourquoi vous me regardez comme ça?
Non, mais je le dis, je m'affine un peu, parce qu'on peut quand même faire des choses.
C'est plus du Photoshop, c'est de la construction, carrément.
Mais là, c'est sans opération, donc ça fait pas mal. Bah oui. Et l'affiche, ça, on est plus jolie. Quoi.
Ouais, mais ça, c'est
et quand vous étiez à l'Olympia, vous étiez très bien.
J'étais très bien. Quoi.
Comme sur l'affiche.
Ah oui,
j'avais beaucoup minci pour l'Olympia.
Ah, l'Olympia, l'affiche avait respecté la promesse
produite.
Ah oui, il n'y a pas de problème.
On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invitée Alessandra Sublet, qu'on retrouve du lundi au vendredi à 20h55 dans C'est quand l'Ouest sur TF1. Ne bougez pas, on revient.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Antonia Dorindinger, Laurent Barra, Mickaël Quiroga et notre invitée par téléphone, Alessandra Sublet. Alors, Alessandra Sublet, vous riez beaucoup. Est-ce que dans la vie, vous êtes comme ça ou alors vous êtes chiante?
Ah non, je suis plutôt comme ça. Alors, ce rire, non mais c'est une bonne question. Ce rire, il a souvent pallié des moments de gêne absolue, et notamment quand j'étais en direct sur C'est à vous ou un soir à la Tour Eiffel sur France 2. Mais globalement, je me marre comme ça dans la vie. Mais je pleure autant que je me marre.
Ah,
en fait, moi,
marrant,
je suis quelqu'un qui laisse cours à ses émotions. D'accord. Très vite. Rien peut me toucher, mais ça part très vite. Mais ça part.
Ouais, vous êtes très sensible en fait.
Ouais, je suis très sensible et je trouve que cette sensibilité, en fait, c'est pas très grave de la laisser s'exprimer. Au contraire, ça vide beaucoup. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de charge émotionnelle, de charge mentale. Bah, si tout le monde faisait pareil, on en aurait peut-être.
Alors, Alessandra Sublet, Laurent Barra a des choses à vous dire. Je crois qu'il craque un peu pour vous.
Voilà.
Ah bon, mon Dieu.
Alessandra Sublet, bonjour. Ouais. Alors, c'est un immense plaisir de pouvoir m'adresser à vous ce matin. C'est fou, hein. La vie est tellement surprenante parfois. Vendredi dernier, j'étais chez un couple d'amis. Il devait être 19h, on faisait un jeu de société en sirotant une délicieuse verveine avec une touche de miel. Oui, j'ai 41 ans, je suis chiant. Vous savez, un de ces jeux de société où l'on vous pose des questions indiscrètes sur votre vie privée, sur vos goûts. Et à la question « Quelle femme célèbre aimerais-tu inviter au restaurant pour un dîner en tête-à-tête ?» j'ai répondu « Vous, Alessandra Sublet ». Alors je dois vous l'avouer, mon esprit d'équipe m'a d'abord poussé à répondre Anne Romanoff, avec qui j'ai souvent partagé mes déjeuners à la cantine d'Europe 1. Ces repas d'échanges professionnels, d'échanges amicaux qui se terminaient toujours par un petit conseil nutritionnel tel que « Si tu ne termines pas ton fondant au chocolat, tu me le files » ou encore « Comme tu es debout, profites-en pour aller me chercher du pain ». Bon, non, mais moi c'est avec vous, exceptionnellement, Alessandra Sandra que j'aurais voulu partager un déjeuner. Alors inutile de vous dire ma joie quand Anne m'a demandé de faire une chronique sur vous aujourd'hui. Quel cadeau et surtout quelle déception quand on m'a annoncé que vous ne seriez pas en studio avec nous. Car en cette période où je ne croise que des demi-visages, votre sourire, vos yeux rieurs m'auraient tellement fait du bien à l'âme. Alors attention, Alessandra, même si je m'appelle Bara, je ne vous baratine pas. Pas de numéro de drague un peu lourd. Ce n'est pas du tout le style de la maison. Non, juste un hommage à votre bonne humeur, votre rire, votre beauté, votre classe, même dans le divorce. Vous qui avez déclaré, pas plus tard que tout à l'heure, que vous étiez amie avec votre ex. Alors que moi, je ne compte pas le nombre d'ex qui m'ont dit qu'elles préféraient rester amies avec moi et que je n'ai plus du tout revu. Oui, Alessandra. Pour répondre à la question que vous êtes certainement en train de vous poser, je suis encore célibataire. Mais à défaut de pouvoir vous inviter au restaurant à 20h, je dégusterai mon plateau télé devant vous. Parce que si pour tous les téléspectateurs de TF1, ce soir, c'est Canteloup, et ben pour moi, ce soir, sans hésiter, c'est Sublé.
Ah, c'est hyper mignon. Mais alors, Laurent, vous seriez hyper déçu parce que moi, je suis une couche-tôt et une lève-tôt.
Mais moi aussi.
Et alors, le dîner au resto, c'est l'enfer.
Mais alors, moi, je suis un couche-tôt. Je vais au resto à 19h, 19h30. On est de retour. On regarde Plus belle la vie, mais juste au début parce que je m'endors au générique. Et puis voilà.
Ça donne envie.
Et ben, oui.
En tout cas, j'étais ravie d'être avec vous.
Merci.
Et ben, c'était un grand plaisir. Et puis, on vous retrouve donc tous les soirs sur TF1 à 20h55 dans C'est Canteloup, à la présentation de C'est Canteloup sur TF1. Merci, Alessandra Sublé. Portez-vous
Merci.
Bien.
Merci, vous aussi.
Au revoir.
Tout de suite, le journal de la rédaction à La France Bouge avec Elisabeth Assayag et nous on se retrouve dès demain à 11h sur Europe 1.